Bonjour déjà. Voilà, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, ces petites choses-là?
L'aéronautique?
Oui, un petit peu plus. Un petit peu plus loin que l'aéronautique. Qu'est-ce qui a marqué là?
NASA.
Ouais, donc.
L'espace,
ouais, c'est ça, le spatial. Qu'est-ce qu'on envoie dans l'espace?
Les fusées.
Oui. Et qu'est-ce qu'il y a dans les fusées?
Des réacteurs.
Ah oui, c'est vrai, il y a des réacteurs. Mais c'est, souvent, on envoie des satellites.
Oui, c'est hein? Bon, voilà.
Et parmi les satellites, il y a des satellites de recherche. Et notamment, des satellites, enfin, de la recherche en astrophysique. Et là, je vais vous présenter en gros une partie de mon activité qui a pris une vingtaine d'années quand j'étais à Marseille. Alors, c'est pas un labo de Clermont, mais c'est parce que c'est quand même beaucoup plus technique que ce que je fais maintenant. Maintenant, je fais plus du management, de la supervision d'équipe. Donc, il y a beaucoup moins de technique, voire plus du tout. Et là, voilà, c'est quelque chose que j'ai fait pendant une vingtaine d'années, donc c'est quand même plus intéressant pour vous. Et donc, mon rôle, c'était d'être architecte mécanothermique. Pour des supports de lentilles, de miroirs qui venaient équiper des télescopes spatiaux. Donc, le laboratoire travaillait donc dans l'astrophysique, donc à la fois sur des télescopes sol ou spatiaux. Je ne sais pas si vous savez, mais au Chili, par exemple, il y a des télescopes avec des gros miroirs, voilà. Mais on avait aussi une activité en lien avec le spatial. Et notamment, là, je vous parle d'un projet qui s'appelle Euclide et d'une pièce optique qu'on appelle un GRISM, qui est une abréviation de grating et prism, en fait un prisme, un réseau gravé sur un prisme. Et donc c'était quelque chose qu'on installait sur une roue à grisme qui a été faite par les Italiens. Et nous, donc on devait fournir, enfin en tout cas l'équipe dans laquelle j'étais, parce qu'il y en avait d'autres qui travaillaient sur d'autres domaines du satellite Euclide, là. Nous, on était chargés de fabriquer les quatre grismes qui équipaient l'instrument NISP. Alors NISP, ça veut dire Near Infrared Spectrophotometer, en fait c'est un spectrophotomètre infrarouge. Donc qui va regarder, on va dire, les galaxies dans différentes longueurs d'onde. C'est pour ça qu'on avait quatre grismes différents, à la fois dans le bleu et dans le rouge. Et donc moi, ma partie d'activité, c'était de vérifier par calcul que ces objets-là, les grismes avec leur support métallique, allaient bien pouvoir supporter les vibrations du décollage et les problématiques thermiques qu'on peut rencontrer en orbite. Parce qu'en orbite, le satellite, quand il tourne autour de la Terre, il a un côté où il voit le Soleil et l'autre côté où il regarde l'espace. Et en général, là où il regarde l'espace, c'est froid. Et quand il regarde le Soleil, c'est chaud. Et du coup, ça engendre ce qu'on appelle des gradients, des grosses différences de température dans le télescope, dans les différentes pièces du télescope. Tout dépend comment il peut être isolé, mais voilà, on pouvait avoir de forts gradients. Et donc on devait vérifier aussi que, par exemple, cet objet-là était capable de supporter des grosses différences de température. Alors nous, on faisait tous les tests, par exemple, vibration à 20 degrés. Mais comme il allait aller dans l'espace, il fallait qu'on puisse tenir entre moins 200 degrés et plus, je ne sais plus, c'était 120 ou 130 degrés Celsius. Donc ça fait quand même un gros écart de température. Et ça peut faire mal aux composants, quoi. Parce qu'on a des problèmes, on peut avoir des problèmes de dilatation. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, les dilatations, les coefficients de dilatation. Non, ça vous dit peut-être rien, hein. Ouais. Par contre, je pense que vous êtes capable de... par exemple, quand vous avez déjà pris le train, j'imagine. Et quand on prend le train, souvent dans les vieux trains, peut-être les TGV, on l'entend moins, mais on entend souvent tout, 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 tout. Et ça, c'est parce qu'en fait, on passe par endroits, des zones où les rails ne se touchent pas. Et pourquoi les rails ne se touchent pas? Parce qu'en fait, les rails, quand on les fabrique, ils font, je sais pas, moi, 10 mètres de long, par exemple. Oui, vas-y, dis-moi. Exactement. C'est exactement ça, la dilatation. C'est-à-dire qu'en fait, quand il fait très chaud, eh ben, la matière, elle a tendance à augmenter en dimension. Et un rail, donc c'est, je sais pas, voilà. Admettons que ça fasse 10 mètres, eh ben, quand il fait très chaud, il va peut-être faire, 10,2 mètres au lieu de 10. Donc il augmente en dimension. Et quand vous avez tous les rails les uns derrière les autres, vous imaginez, si les deux, ils augmentent, à un moment donné, si vous ne laissez pas assez d'espace vide pour justement pouvoir supporter cette augmentation, ben, ils vont se monter dessus, quoi. Et pour les trains, ce n'est pas très bon, ça peut faire dérailler. Et inversement, en hiver, ils vont se restreindre. Donc c'est ça la dilatation, c'est-à-dire qu'en fonction des températures, il peut y avoir une différence entre la taille de la matière avant ou après. Et donc là, nous, dans nos problématiques, ce qui est bien, c'est que suivant ce qu'on a comme contrainte thermique, l'idéal, c'est d'avoir la partie mécanique qui est le même coefficient de dilatation que le verre. Et les coefficients de dilatation du verre, en général, ils sont très faibles. Si on prend par exemple un aluminium, son coefficient de dilatation c'est 24 10-6. Alors ça veut dire 24 10-6 mètre par degré. Donc typiquement, si vous augmentez, de 1 degré, eh ben, la dimension va être multipliée par 24 10-6. Alors ça peut être petit, mais sur des par exemple des grands rails, ça peut faire et même si c'est petit, nous comme on a des différences de température qui sont pas de 1 degré mais de 300, ben ça peut faire mal. Et typiquement, si vous avez par exemple la mécanique ici qui se restreint, donc qui diminue sa taille plus fort que le verre, ben vous imaginez qu'il va bien contraindre le verre, et le verre, il n'aime pas ça être contraint. C'est comme si vous prenez votre verre à boire, vous appuyez dessus comme un malade, ben à un moment donné, il va casser, quoi. Et donc, ce qu'on ne veut pas, c'est que justement le verre casse, parce que si une optique casse, ben imaginez si c'est un miroir du télescope, le télescope, il est aveugle, quoi. Donc, ce n'est pas bon. Ou inversement, s'il ne casse pas, mais qu'il est déformé, là, pour le grisme, ben du coup, il va donner une image floue. Donc, ce n'est pas non plus ce que les chercheurs veulent. Ils veulent une image belle, quoi. Donc, une de mes activités, c'était de vérifier que ben, tout cet ensemble-là allait bien bouger de la même façon et ne pas contraindre les uns ou les autres et ne pas casser, quoi. Et une autre activité, c'était de faire des... Alors, c'était pas moi qui faisais les tests en vibration, mais je les simulais et je participais aux tests avec le collègue de vérifier ben, qu'aux vibrations du décollage du lanceur, ça peut engendrer des très fortes contraintes en termes mécaniques. Par exemple, vous connaissez la gravité terrestre. Notre support, il faisait pas tout à fait un kilo, un petit peu moins. Quand on est en gravité terrestre, c'est 1G. G égale 9,81 mètres par seconde au carré. Mais quand on fait des tests en vibration, on peut, grâce au pot vibrant, simuler par exemple 10G, 20G. Donc vous imaginez, par exemple, c'est comme si vous, d'un coup, on vous donnait 10 fois votre poids. Ça peut faire mal, quoi. Hein. Et sur une pièce mécanique, ça peut, par exemple, la faire casser, ou sur l'optique, la faire casser. Et donc, notre pot vibrant, là, il servait à faire ces simulations-là, par exemple, de 10 ou 20 G. Ça dépendait du lanceur, et puis surtout de l'endroit où était positionnée notre optique. Et donc, bah, on faisait à la fois les tests, et avant de faire les tests, bah, moi, je simulais par calcul, et je disais, bah, c'est bon, on peut tester à tel niveau, ça ne devrait pas casser. Et je disais aux collègues aussi, j'aimerais bien que tu mettes un capteur à tel endroit, parce que je voudrais vérifier ce que dit mon modèle, là, grâce à des capteurs, si c'est bien juste ou pas. Donc, je faisais aussi ce qu'on appelle de la corrélation entre les calculs et les essais. Parce que c'est bien beau de faire un modèle de calcul, mais c'est qu'un modèle. Si on a besoin d'aller corréler ça avec la réalité, parce que sinon, voilà, on peut très bien dire oui, ça cassera pas. Puis en fait, comme le modèle est très mauvais par rapport à la réalité, ben c'est faux, ça va casser. Bon. Donc voilà, ça c'était un de mes rôles, à la fois faire les calculs, les corréler aux essais, participer aux essais. Rédiger de la documentation. On a beaucoup, beaucoup de documentation à rédiger pour le spatial. Enfin, même pour d'autres projets, d'ailleurs. Hein. Mais là, en l'occurrence, on était attendu par nos donneurs d'ordre, le CNES, ou les autres partenaires avec qui on travaillait. Par exemple, là, on devait fournir les grismes aux Italiens, qui devaient les monter sur leur roue, mais ils attendaient de notre part une documentation. On devait leur fournir des plans d'interface, pour vérifier, par exemple, que nous, nos vis qu'on avait positionnées là, ben, elles allaient bien arriver dans les trous au bon endroit de la roue des Italiens. Parce que si vous arrivez et que le trou n'est pas au bon endroit où il y a votre vis, ben, ça ne se monte pas. Donc, les gens ne sont pas contents, quoi. Parce que là, on repart et puis on perd beaucoup de temps. Et c'est très timé, ces projets-là. On a des délais à tenir parce que le télescope, il part à telle date et pas à une autre. Voilà. J'ai peut-être beaucoup parlé, vous n'avez pas posé beaucoup de questions. Si ? Ça vous intéresse, les sciences ? Bon, eh ben, allez-y, parce qu'on fait beaucoup de choses intéressantes et jamais la même chose.